Il y a des trucs sur la Bretagne avec le recueil des créateurs, ça c'est clair.
Oui, avec voilà. Le recueil des créateurs. Donc on va reprendre à partir de là. Est-ce que tu peux nous parler un peu des sorciers et des hommes? Comment est-ce que tu l'as créé ce livre-là? Ça faisait un moment que tu n'avais pas sorti de roman entier.
Alors c'est parti, les sorciers des hommes, c'est parti en fait d'une nouvelle qui s'appelle Ruban de soie rouge. Ruban de soie rouge, c'est une nouvelle de Sword and Sorcery façon le cycle des épées de Fritz Leiber. Alors le cycle des épées, c'est un grand classique de la littérature de fantasy qui met en scène deux méchants, on va dire, qui s'appellent Fafford et le souricier gris, c'est-à-dire une brute et un sorcier. Et ça a donné un petit peu son nom à ce genre de fantasy très cynique, très cruel, mais avec de l'humour noir tout le temps pour saupoudrer les histoires. Et là en fait, mon texte, donc Ruban de soie rouge, devait être dans une anthologie justement de Sword and Sorcery, si on me l'avait commandé. Mais l'anthologie ne s'étant pas faite, j'ai récupéré mon texte. Et avec ce texte, je me suis dit, ah, c'est dommage de laisser juste ces personnages en plan, quoi, et de ne rien en faire. Donc, j'ai commencé à réfléchir à un projet sur le plus long terme qui mettrait en scène ces deux personnages. Et là, je me suis dit, comme en plus, je suis un grand amateur de séries télé, même si j'en regarde moins ces dernières années, mais bon, je suis quand même un grand amateur de séries télé. Et j'ai voulu reprendre un petit peu le principe des saisons de séries télé. Donc, ce qui fait que on retrouve dans Des sorciers et des hommes ce côté sériel, c'est-à-dire qu'on a des épisodes. On a 5 épisodes hein, qui mettent en scène, alors plus ou moins Enger et Picaram, qui sont les deux personnages justement du barbare et du sorcier. D'autres aussi personnages, parce qu'on change de point de vue parfois aussi. Et puis à la fin, quand ces 5 épisodes sont passés, on a le gros final, comme dans une saison de série télé, quoi. On a le gros final qui pète tout. Et là, effectivement, ça prend quand même la moitié du roman. C'est structuré effectivement pour être à l'équilibre justement structurel, c'est qu'on a ces 5 épisodes qui font la même taille que cet épisode final qui est vraiment le clou du spectacle, j'allais dire quoi, voilà. Et donc finalement, j'ai vraiment insisté sur ce côté épisode, y compris justement dans la structure des aventures des personnages où on retrouve évidemment, alors ces deux personnages de sorciers et de barbares, mais aussi d'autres personnages qui apparaissent au fur et à mesure des histoires, qui parfois disparaissent, parfois brutalement, hein, voilà, faut bien le dire. Mais certains sont laissés sur le carreau, évidemment, certains dans de mauvaises positions. Et il se trouve que, nos deux personnages étant deux immondes salopards, laissant des stigmates chez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont envie, hein, se venger, voilà. Donc en fait, c'est aussi, et avant tout, une grosse histoire de vengeance, voilà.
D'accord. Présenté comme ça, il va y avoir une suite, hein, s'il y a des envies de vengeance. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça?
Alors, j'ai déjà réfléchi à d'autres histoires qui mettent en scène Enger et Picaram, mais pas forcément des histoires qui se déroulent après la fin du dernier épisode. Voilà. En fait, moi je dirais, lisez déjà le bouquin, vous verrez après si je peux en faire une suite ou pas. Voilà. Mais j'ai déjà d'autres épisodes en tête, ça c'est sûr. Ouais.
D'accord. Dans un style de spin-off, des histoires parallèles.
Des histoires parallèles, ouais, tout à fait. Alors, par exemple, dans la structure du bouquin, il y a des moments où je mets quelques mois plus tard, ce genre de choses. Je me garde effectivement cet espace-temps pour pouvoir placer d'autres histoires. Parfois, j'y fais même allusion dans le roman, à certains épisodes qui ne sont pas racontés dans le roman. Donc, effectivement, j'ai de quoi remplir encore quelques pages d'aventure de Enger et Picaram, ça c'est sûr.
Donc là, tu viens de parler d'une de tes références, Fritz Leiber.
Oui.
Je le connais suffisamment pour parler aussi de Julia Verlanger. Tu passes ton temps à parler de références. Mais tu es aussi libraire. Comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu vois une différence entre toi qui vends du Thomas Gère ou toi qui vends du Julia Verlanger ou du Fritz Leiber?
Oui, parce que déjà, j'ai une grosse difficulté en tant que libraire, c'est de me vendre moi-même. Donc, c'est vraiment très très rare. C'est qu'en de rares occasions, effectivement, où je conseille mes propres livres, mais ça reste quand même très très rare. J'ai évidemment aucune difficulté, en revanche, à conseiller mes auteurs préférés et mes auteurs fétiches, dont évidemment font partie Fritz Leiber et Julia Verlanger, alors qui est encore une autre référence, parce qu'elle n'a pas écrit que de la fantasy. C'est une référence plus française, plutôt. On va plutôt le prendre comme ça, c'est une référence plus française. Et c'est surtout une référence à une autrice qui m'a remis à la lecture à un moment donné et qui est justement importante dans mon parcours de lecteur. Donc c'est beaucoup, beaucoup pour ça aussi que je n'hésite toujours pas maintenant à conseiller du Julia Verlanger, parce que je connais ses vertus profondes, et notamment celle de faire lire les lecteurs, quel que soit leur âge, je crois.
Dans la chaîne du livre, tu as donc été auteur, tu as été lecteur, éditeur, libraire. Est-ce que tu penses qu'une seule personne peut faire les quatre, ou c'est pas possible, ou il y a un moment donné, la relation avec le livre et la littérature est biaisée?
Non, moi en fait c'est surtout, je crois, un peu de hasard, beaucoup de curiosité et aussi un peu de chance, j'allais dire, qui ont fait que j'ai pu m'orienter dans toutes ces directions, et c'est-à-dire participer un petit peu à tous les chaînons de la chaîne du livre, que ce soit de sa création jusqu'à sa mise en vente. La curiosité a fait que je me suis toujours intéressé à tous ces chaînons, et que d'une certaine façon j'ai toujours voulu voir comment ils fonctionnaient. Alors résultat, j'ai écrit des livres et je me suis mis à en vendre, et puis aussi en éditer. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'ai commencé comme ça d'ailleurs, j'ai édité plusieurs fanzines qui m'ont lancé dans ce côté éditorial, justement, où j'avais envie de faire partager déjà. En fait, tout vient de là, hein, c'est surtout cette envie profonde chez moi de faire partager des bonnes histoires, que ce soit justement par le biais de l'éditorial, par le biais de la vente en magasin, ou même par l'envie de raconter des histoires que peut-être parfois je ne retrouve plus ou pas dans les rayons. Voilà, donc je pense que c'est une même envie qui me guide pour tous ces domaines, c'est de vouloir de vouloir mettre en exergue ces littératures-là qui, à mon sens, sont importantes. Et on le voit d'ailleurs, hein, parce que le développement des littératures de l'imaginaire se fait de plus en plus en librairie, et puis même dans notre culture au quotidien, hein, on le voit. Et y compris justement chez, entre guillemets, les grands éditeurs qui commencent maintenant aussi à avoir ou à faire arriver des collections typiquement de genre. J'ai par exemple Hugo, qui est un éditeur qui fait beaucoup de polars et de choses très très différentes, va se lancer dans la SF. Je crois que Lattès va aussi lancer sa collection. Albin Michel, qui est un gros éditeur généraliste, va aussi lancer sa grosse collection d'imaginaire. Donc on voit vraiment cette importance de l'imaginaire actuellement en France. On voit son développement en cours et à venir. C'est pas fini. Ouais. Je pense qu'on est vraiment dans un bon mouvement, je trouve. Et quelque part, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Avec ma participation modeste à tous ces chaînons de la chaîne du livre, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est défendre ces littératures et faire en sorte qu'on les reconnaisse. Et donc, là-dessus, je peux pas dire que je suis pas content. Hein. Je fais à peu près tout ce qui me plaît, donc c'est sûr. Hein.
Là, on parlait de la chaîne du livre, mais tu fais partie aussi d'une autre chaîne, celle de la littérature avec un grand L, parce que tu es intervenant en faculté, c'est ça?
Oh là, oui, alors c'est un bien grand mot. Je suis intervenant extérieur, effectivement, à la fac à Rennes 2, où je m'occupe surtout de donner des cours à des filières plus spécifiques, comme les DUST, hein, qui sont des filières déjà professionnalisantes, hein, où en fait, je fais surtout un parcours de lecture, un parcours historique sur justement ces littératures de l'imaginaire, d'où elles viennent, comment elles ont émergé, comment elles ont réussi à exister, et quelle est finalement leur importance maintenant aussi, quoi. Donc je m'occupe de leur prouver que cette littérature ne vient pas de nulle part. Voilà. Et qu'elle a aussi une jeunesse, finalement.
C'est une noblesse, parce qu'elle vient à priori de la mythologie.
Bien sûr, ça vient de plein de choses, hein, je veux dire, on peut c'est simple, hein, on peut remonter à l'Iliade, l'Odyssée, hein, qui raconte déjà des choses très, très imaginaires, très fantastiques. Voilà, ça a toujours fait partie de l'ADN de l'être humain de raconter des histoires, et des histoires fantasmées, des histoires qui appartiennent justement à l'irréel, à l'imaginaire, etc. Et arrivé à notre époque, c'est toujours la même chose, on a toujours envie de raconter ce genre d'histoire. Donc c'est normal que, à mon sens, ce type de littérature explose encore maintenant. Enfin, voilà.
On va parler d'un autre aspect de toi-même. Donc là, je suis en train d'interviewer Thomas Géa, mais Thomas Géa n'est pas ton vrai nom. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as pris ce pseudo?
Ah, pas du tout.
Ouais, je peux expliquer. Alors effectivement, ça vient du fait qu'à un moment donné, un certain Philippe Ward qui est éditeur chez Rivière Blanche. Donc l'éditeur s'appelle en réalité Black Coat Press, mais sa collection s'appelle Rivière Blanche en hommage au fleuve noir. Donc on voit très vite la relation entre les deux, et que au fleuve noir Anticipation, qui est une des plus grandes collections populaires françaises de science-fiction, les auteurs qui y publiaient prenaient pour la plupart des pseudonymes. Donc moi, quand Philippe Ward m'a demandé d'écrire un roman pour sa collection chez Rivière Blanche, pour coller encore davantage à l'hommage, je me suis dit, il faut moi aussi que je prenne un pseudonyme. Voilà. Donc ce qui fait que je me suis choisi un pseudonyme, donc Thomas Géa, et que j'ai publié mon premier roman à Come Alone, sous pseudonyme, tout bêtement.
Oui,
alors c'est simple, hein, Thomas c'est pour Gilles Thomas, hein, on parlait de Julia Verlanger, alors c'est le pseudonyme doublement masculin de Julia Verlanger. Julia Verlanger est un pseudonyme d'ailleurs aussi, hein, mais bon voilà. Et Géa, en fait, ça vient d'un de ses romans, ça apparaît dans Les Portes sans retour, il me semble, voilà. Ou La Flûte de verre froid plutôt. Et ça apparaît dans le prologue du. C'est un mot qui apparaît dans le prologue du roman pour désigner la Terre. Tu vois, Géa, Gaïa, enfin voilà. Donc j'ai choisi ça comme ça, effectivement, en rapport avec Julia Verlanger, Gilles Thomas. Voilà. Qui était un auteur du fleuve noir.
Lui aussi.
Voilà. Elle aussi. Lui aussi. Mais c'est compliqué.
Voilà. Et si maintenant on te refaisait cette proposition avec toutes les expériences que tu peux avoir, est-ce que tu reprendrais un pseudo ou
pas? Oh, je regrette pas de l'avoir pris. Philippe Ward justement m'avait dit « Ah, prends pas de pseudonyme, tu verras, tu le regretteras plus tard. » Bah oui, je l'ai un peu regretté, mais je le regrette plus en fait. Parce que bon, maintenant, je suis connu sous ce nom-là. Ça m'empêche pas de publier sous le nom de Xavier Dolo si j'ai envie. Je sais que mon prochain bouquin, qui paraîtra sans doute l'année prochaine chez un éditeur peut-être au vin, on verra. Rien n'est signé encore, mais bon, voilà. Celui-là se fera sous le nom de Xavier Dolo. American Face, par exemple, que j'ai écrit en collaboration avec Anne Fakouri, je l'ai signé sous le nom de Xavier Dolo. Voilà. Bon. Surtout pour des raisons toutes bêtes, mais pour faire plaisir à ma mère. Voilà.
Je t'en file, on va passer à notre tradition, le portrait chinois. Est-ce que tu es...
Ouais.
Je vais te donner la dernière question que je te poserai, que tu as réfléchi ce matin. Et tu vas devoir choisir la musique qui va clore cette interview, puisque j'ai une interview qui sera sur Radio G.
D'accord, ok.
Donc il faut que tu réfléchisses à la musique.
Ouais.
C'est bon, t'es prêt?
Ouais.
Si tu étais un mutant, quelle mutation voudrais-tu avoir?
La télékinésie.
C'est un pouvoir, pas une mutation.
Ah, bon, alors... Qu'est-ce que t'entends par mutation? Tu voudrais que j'ai des palmes?
Je sais pas, est-ce que tu voudrais modifier quelque chose sur ton corps, sur ton esprit?
Non, la télé. Non.
Pourquoi la télé?
Non, je préférerais un super pouvoir.
Alors pourquoi celui-là?
Je sais pas, l'idée de déplacer des objets, ça me plaît bien. Juste pour rigoler, voilà.
Oh, une sorte d'esprit fort, poltergeist?
Ouais, voilà, une sorte de poltergeist, scientifique, voilà, rationalisé.
Alors justement, tu empiètes un petit peu sur la question suivante. Si tu devais être un super-héros existant, ce serait qui?
Un super-héros existant? Mon éditeur, Simon Pinel. Non, parce qu'il en a du courage de faire, je trouve, 12 bouquins quasiment tout seul dans l'année chez Critique. C'est un gros travail, très gros travail, et... quand on voit les résultats, ma foi, je suis plutôt admiratif.
C'est pas la réponse qu'on attendait, mais elle est tout à fait acceptable. Si tu étais une confiserie?
Je suis pas très confiserie, mais éventuellement je serais un nounours à la guimauve, là. Voilà.
D'accord, pour qu'on puisse t'arracher la tête d'un coup dedans?
Non, parce que j'aime bien ça.
Et si tu étais un dinosaure?
Ah, je serais sans doute un ptérodactyle.
Pour pouvoir voler?
Ouais, pour pouvoir voler et puis avoir ce côté, je suis le maître des airs, personne vient m'emmerder, tu vois, voilà, je sais pas.
Ah, voilà, c'est fini pour les questions de tonton Jean-Hugues. Et là maintenant, la dernière, la musique.
Eh ben, écoute, moi j'aimerais bien l'herbe folle. Alors oui, l'herbe folle, ça c'est le titre du morceau. C'est d'un groupe qui s'appelle Angel Fall. Voilà. Si vous arrivez à le trouver, c'est super. Ils ont sorti un album il n'y a pas très très longtemps et c'est un magnifique album. Donc, en plus, ce titre-là m'a pas mal aidé sur certaines scènes un peu plus douces des Sorciers des Hommes. Donc, j'ai ma playlist d'ailleurs, hein, des Sorciers des Hommes, qui est trouvable sur Spotify. Ça s'appelle Des Sorciers des Hommes d'ailleurs. Hein, voilà. Et celle-ci y est, donc voilà.
Bah écoute, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de te voir. Hein.
Bah pareil.
Et puis à très bientôt, donc on attend une nouvelle de ta part pour la prochaine anthologie d'ailleurs.
Ah bah c'est prévu, il n'y a pas de problème.
C'est bon.